Bonjour et bienvenue sur Radio César. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Segui à l'occasion de la sortie de son livre « Le secret d'Alexis » publié fin 2014 aux éditions Tom Pouce. Le livre comporte un sous-titre « Comment expliquer la dyspraxie aux enfants ?» En effet, Emmanuel Segui est particulièrement sensible à ce sujet et impliqué à titre personnel dans une association qui s'appelle Dyspraxie France 10.
Bonjour Emmanuel Segui, et merci d'être parmi nous. Nous voudrions tout d'abord faire un peu connaissance avec vous. Vous êtes, je crois, infographiste. En quoi cela consiste ?
Bonjour et merci de m'accueillir sur vos ondes. Effectivement, je suis infographiste, donc c'est dessiner à l'aide de l'outil ordinateur, faire des illustrations. Toujours en passant par l'infographie, c'est-à-dire l'ordinateur. J'ai une tablette graphique et un écran. Voilà.
Avant de parler du livre, pourriez-vous nous présenter un peu l'association Dyspraxie France 10 ?
Alors, c'est une jeune association qui est faite avec de vieux briscards de la dyspraxie. On est une association nationale, on a plus de 1500 adhérents, il y a des antennes dans toutes les régions et on a deux vitesses. On a une vitesse locale pour aider les gens en répondant par téléphone, par mail, aux parents d'enfants dyspraxiques ou aux adultes d'ailleurs. Et on a une vitesse nationale où on entreprend des actions. C'est par exemple pour le passage du permis, essayer d'avoir des aides pour que les enfants, enfin les jeunes adultes dyspraxiques aient des aides à passer le permis.
Depuis quand faites-vous partie de l'association ?
Ça fait quelques années, mais je m'intéresse à la dyspraxie depuis plus longtemps. Voilà, donc c'est une jeune association, mais encore une fois, de gens experts.
Pourquoi la question des prises en charge des enfants dyspraxiques vous emporte tant ?
Alors, pour rien ne vous cacher, j'ai ma fille qui est elle-même dyspraxique. Donc c'est à l'occasion de la découverte de ce handicap que je me suis tourné vers ce handicap-là. Et pour être tout à fait complet, moi-même je suis dyslexique, donc c'est un peu dans la sphère aussi. Une petite précision aussi, on est souvent multidys, c'est-à-dire qu'on est dyspraxique mais aussi dyscalculique par exemple. On dit dys quelque chose, mais il y a une chose sur laquelle les médecins sont sûrs, c'est que c'est quasiment très rare et impossible d'avoir qu'un seul 10, voilà. On est multiliste.
Avez-vous le sentiment que ces enfants sont bien pris en charge par leur scolarité ?
Ouh, grosse question. Alors, pour être positif, je vais dire que les choses évoluent en bien, que les enseignants sont de plus en plus au courant et on le souhaite former. Personnellement, avec l'association, je forme les AVS du 77, les auxiliaires de vie scolaire. Donc elles ont une semaine de stage, dont une journée sur la dysphasie, la dyspraxie et la dyslexie.
Qu'est-ce que la dyspraxie ?
Ah voilà, alors c'est un trouble dys signifiant difficulté, problème, et praxie signifiant le geste. Donc c'est un trouble neurologique pour l'automatisation, la programmation du geste. Alors quand on dit ça à un enfant de 7 ans, il vous regarde avec des grands yeux ronds comme ça, d'où l'idée de faire le livre et d'écrire une histoire. On est en 2015, donc je vais prendre une image un peu plus simple. Disons que lorsque je veux effectuer un geste volontaire, mon cerveau a un petit bug à l'intérieur qui fait que je vais lancer ma main trop fort ou pas assez loin. Voilà, mon geste va s'effectuer différemment.
Alors, l'association est soutenue par un très connu.
Alors, je vois où vous voulez en venir. Le parrain de notre association s'appelle Ronan Luce, c'est le chanteur. Il nous ouvre les portes, c'est-à-dire qu'à chaque concert, on peut avoir un stand pour parler de la dyspraxie. On est très fiers. Il a même poussé son aide jusqu'à tourner et sillonner la France pour poser des questions aux dyspraxiques. La vidéo peut se voir en ligne, ça s'appelle « La dyspraxie, le parcours du combattant ». Donc voilà, je vous donne un devoir à faire. Vous cliquez sur votre moteur de recherche préféré, qui commence par un G ou pas, c'est comme vous voulez, et vous marquez le parcours du combattant. Vous verrez Renan Luce qui sillonne la France et qui pose des questions auprès de jeunes dyspraxiques.
Vous venez de publier un livre très intéressant sur ce sujet. Il s'agit du secret d'Alexis. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre qu'il est dyspraxique. On suit ses aventures au domicile et à l'école, ses difficultés mais aussi ses progrès. Ce livre nous a beaucoup intéressés car on s'est souvent retrouvés à travers ce personnage. Et c'est un livre qui donne de l'espoir. Quel est votre public visé par ce livre ?
Alors effectivement, le secret d'Alexis, c'est le premier public, c'est l'enfant dyspraxique qui découvre son handicap. C'est pas toujours facile de découvrir qu'on est handicapé, d'autant que c'est un handicap invisible, donc il y a tout un entourage qui peut passer à côté. L'idée, c'est de l'accompagner pour comprendre ça. Ça, c'est ma première cible, c'est mon premier public. Et après, c'est l'entourage, voire les enseignants et plus largement tout public. Mais ma première cible, c'est vraiment l'enfant et j'espère avoir trouvé les mots et son univers pour qu'il s'y reconnaisse. Après, on peut élargir au handicap, mais là, c'est un peu prétentieux de ma part.
Moi, il y a certains mots qui m'ont touché. Par exemple, quand le cousin d'Alexis essaie d'expliquer à ses parents qu'il est dyspraxique, ben on voit que les gens ont vraiment du mal avec le handicap. Et moi, ça m'a beaucoup touché, parce que autour de moi, il y a des gens qui ont toujours du mal avec mon handicap.
Oui, alors ça, c'est effectivement, on touche un point très sensible qui est l'acceptation du handicap, déjà par le handicapé, mais après, il y a l'entourage. Et donc moi, j'ai fait passer cette idée-là par le rôle du père. Donc c'est le personnage qui est un peu, on va dire, obtus, pour pas dire bas de plafond, et qui... Parce que c'est des choses que j'ai entendues. J'ai entendu un père me dire « Mais moi, mon fils, il n'est pas handicapé. » Clairement, c'est un refus. Alors après, on a chacun nos vies et nos cheminements, et donc c'est un parcours. Est-ce qu'on accepte totalement nos handicaps ? Je ne sais pas. C'est un grand, grand débat. Mais ça me touche que j'ai réussi à faire passer cette idée que des gens sont blessants parfois uniquement parce qu'ils refusent une réalité.
Moi, j'ai trouvé aussi que, sur ce que vous avez dit, que le père a du mal avec le handicap. C'est vrai que souvent dans les familles, c'est le père qui a beaucoup de mal avec le handicap.
Alors là, malheureusement, je dois te donner raison, c'est que je ne sais pas pourquoi. C'est souvent les mamans qui comprennent un peu plus vite ce qui se passe. Mais il y a aussi des papas, la preuve étant ma présence autour de cette table.
Qu'est-ce que vous êtes inspiré de votre expérience personnelle pour décrire Alexis ?
Oui, et puis une troisième réponse, oui. Parce que en faisant partie de l'association, on a beaucoup de mails, de témoignages, et j'ai puisé plein d'anecdotes dans ces informations-là. Par exemple, quand il y a une panne d'électricité, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a Alexis dit tout de suite, il crie très fort, c'est pas moi. Et ça, c'est une anecdote qui m'a été racontée. Un enfant dyspraxique souvent fait des bêtises, est maladroit. Et du coup, dans une famille, on l'accusait tout le temps dès qu'il y avait une panne. Donc, le jour où il n'est pas responsable, il crie dans l'appartement, c'est pas moi.
Est-ce que vous avez eu des retours positifs sur votre livre ?
Oui, alors le plus beau témoignage, c'est une mère de famille qui m'a dit « On a l'impression que vous étiez là à tous les moments de notre découverte de la dyspraxie » et ça m'a beaucoup touché parce que... Alors, j'ai pas non plus trop de mérite parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup de témoignages grâce à l'association, des témoignages sur la vie et la découverte de la dyspraxie. Ce qui m'intéressait, moi, c'est mon côté un peu trop positif parfois, mais c'est de regarder les situations cocasses dans ça et trouver toujours le trait d'humour qu'il y a. Je trouve qu'on parle souvent des difficultés, des dyspraxiques, des problèmes, des choses un peu ennuyeuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le positif et, par exemple, l'humour. Je sais que quand je me suis assis autour de cette table avec ces micros, il y a l'un d'entre vous qui a dit « Monsieur, vous stressez le logiciel, c'est pour ça qu'il ne marche pas ». Ça m'a fait beaucoup rire et je pense que l'humour fait partie des armes et des avantages des handicapés. Voilà, merci.
C'est vrai que l'humour, bah, ça nous aide beaucoup. Déjà, bah, quand on est en collège ordinaire, ça nous aide aussi à sortir des fois de l'embarras. Parce que les jeunes, bah, ils se disent « Ouais, il est handicapé, donc il est plus renfermé. » Alors qu'en fait, quand on est en classe et qu'on commence à sortir une blague et qu'on voit que tout le monde rigole, bah, déjà, ça fait du bien, quoi, parce qu'on voit qu'au moins, ils savent qu'on est là, quoi. Donc c'est vrai que même dans le livre, quand Alexis, par exemple, tire dans son but, j'ai trouvé ça très, très drôle et...
Alors, si vous me poussez dans mes retranchements, je prétends même qu'il y a un humour dyslexique. C'est-à-dire que nous, les dyslexiques, on inverse des syllabes. Des fois, on confond des mots. Les mots ne nous viennent pas tout à fait. Par exemple, quand je me présente, je dis toujours « je suis un faux graphiste, un vrai ». Cette blague-là, il y a énormément de gens qui ont une très bonne orthographe et qui ne pourront jamais l'inventer. Parce que quand vous écrivez infographiste en un seul mot, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un faux graphiste, un vrai. Voilà.
Nous venons de finir un récit en classe qui raconte les aventures d'un garçon handicapé dans un collège. Notre récit sera illustré par une professionnelle. On a trouvé des points communs. Vous avez lu notre texte, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, comme vous, j'ai été très très agréablement surpris par les points communs, y compris lors du sport, lorsqu'on choisit les équipes, et c'est exactement la même situation. Ma première réaction, là, elle est tout à fait personnelle, c'est un grand bonheur de ma part, ça veut dire que j'ai réussi à me mettre à votre place, et voilà, là c'est purement personnel et l'auto-satisfaction de base. La deuxième, c'est que je pense qu'il nous faut illustrer des situations complexes à expliquer. Et le sport, par exemple, est un catalyseur, c'est-à-dire que ça permet de symboliser, justement, par exemple, lorsqu'on n'est pas choisi dans une équipe, on est humilié devant tout le monde. Et souvent, en classe, quand on est handicapé, ça nous arrive d'être humilié de par la situation. Alors, je pense que c'est peut-être ça aussi qui explique qu'on partage, parce que c'est un partage, plusieurs situations dans votre récit et dans Le secret d'Alexis. Et il y a aussi Tony Parker, que je ne fais que citer, alors que vous en faites quasiment un personnage dans votre récit. Oui. Alors j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que pour le basket, le pays dont c'est quasiment la religion, c'est les États-Unis. Et que Tony Parker, un Français, arrive à réussir là-bas, c'est un peu, je vois le parallèle, comme un handicapé qui réussit à faire mieux que les « valides », entre guillemets.
Oui.
Votre récit ayant... une grande qualité, c'est qu'il part de vécu. Et ça transpire tout au long de votre récit. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire qu'on sent que les situations que vous mettez en texte ont été vécues. Et du coup, vous touchez très fortement le public.
Nous vous souhaitons une longue vie à votre livre et tout le succès qu'il mérite.
Alors, je tiens à vous remercier. C'est effectivement ma première émission radiophonique et j'espère que Alexis parlera de nouveau sur les ondes. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir rendu visite sur Radio César et à bientôt pour de nouvelles émissions.
Monsieur.